Biston klack, biston klack, biston klack. Nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Allô, allô, Gables, quelle nouvelle! Absorbé dans mes intuitions, au bout du fil, Adolphe t'appelle. Donne-moi toutes les informations.
Tout va très bien, mon vénéré Führer. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il y a un tout petit repère. On déplore un tout petit rien. C'est ce pauvre Mussolini qui a perdu l'Empire d'Italie. Depuis Cromwell a quitté l'Albanie. Mais à part ça, tout va très bien.
Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle! Mon pauvre Rommel, écrabouillé. Explique-moi, mon cher Goebbels, dis-moi tout ce qui s'est passé.
Cela n'est rien, mon vénéré Führer. On croyait tenir Alexandrie. Mussolini était tout près d'entrer au Caire. Les Anglais entrent en Tunisie. Et les Français et les Alliés nous attaquent de l'autre côté. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle! Que fait donc mon Afrique en Corse? Explique-moi, Goebbels fidèle, serions-nous donc frappés à mort?
Cela n'est rien, mon vénéré Führer, c'est que nous manquons un peu de soldats. Étant battus en Russie tout l'hiver, nos effectifs ne sont plus gras. Il y a Paulus, pris par les Russes, et le Caucase n'est plus cocasse. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle! Nos armées seraient donc battues? Explique-moi, car je chancelle, serions-nous donc vraiment foutus?
Eh bien voilà, mon vénéré Führer, les Anglais qui bombardent Berlin préparent déjà un second front sur terre, sur le continent européen.
De Leningrad à Stalingrad, la rage elle en prend pour son grade.
Les Russes continuent leur galop.
Et puis Vlad de Gaulle et Giraud
ont vu Roosevelt et Churchill et des drôles de trucs en Turquie.
Voilà pourquoi Mussolini
a perdu l'Empire d'Italie.
Pour lui, Hennini, c'est fini.
Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien.
Bonsoir, vous venez d'entendre un détournement de la célèbre chanson de Paul Misraki, « Tout va très bien, Madame la Marquise », interprétée là par les Octaves sur des paroles de Maurice Van Mops, et sous le titre « Mais à part ça, tout va très bien ». C'est Maurice Van Mops qui, pour Radio Londres, en avril 1941, a écrit ce texte qui reflète bien l'état d'esprit frondeur des résistants de cette période. Cette chanson vous a été proposée en prélude à notre deuxième émission d'une nouvelle série de trois consacrée au résistant Roger Gaget, à qui nous rendons hommage. Roger Gaget est un Tararien né le 12 février 1923, donc âgé de 88 ans au moment de cet entretien. Il avait 17 ans en 1940 et il dut subvenir à ses besoins et se mit à travailler. Mais en novembre 1942, face à l'invasion de la zone sud, sa conscience va lui imposer de se mettre en action contre l'occupant de son pays et comme il nous le conte, il a fini par trouver le moyen, avec pas mal de difficultés, comme c'était souvent le cas, de s'engager au maquis, coupant du même coup toute relation avec sa famille et ses amis. À partir de là, sa volonté de se battre fera de lui un combattant du réseau Périclès, et basé dans le Haut-Jura, il restera un maquisard combattant clandestin jusqu'à la fin de la guerre, avant de reprendre sa place de citoyen dans la vie civile. Nous évoquons donc son parcours et ses luttes au fil de ces trois émissions. Cette deuxième émission est consacrée plus précisément au récit de sa vie de maquisard entre mars et août 1944 dans le Jura. Merci de votre attention et bonne écoute.
Et vous étiez combien dans ce groupe à ce moment-là ?
Oh, peu nombreux, peu nombreux. On était peu nombreux, notre groupe, mais on était une vingtaine.
Ah oui.
Peu nombreux. Dans tout le maquis du Jura, on était 250. Armés, enfin. Ah oui. 250 et les autres étaient
répartis en combien de groupes ? Des groupes de 20 toujours ?
Oh oui, des groupes de 20, oui. Nous, c'était des groupes de 20 et des groupes peut-être un peu plus importants même. Enfin, nous, c'était un groupe de 20. Parce que voilà, l'attaque se fait en avril. Une division sur le dos. La 150e division, on a su après. 157e division bavaroise qui était cantonnée à Grenoble, qui était chargée. Contrôler le secteur. Alors, division complète avec tout le matériel nécessaire, l'aviation, les tanks, les automitrailleuses et tout le tremblement. Alors, au début, ils ont attaqué un de nos camps, qui était le mieux armé, d'ailleurs. Ils étaient le mieux armés, ils ont attaqué. La bagarre a duré dans la journée, il y a eu des morts, nous on a eu 7 morts là, mais eux on a eu au moins 30 ou 40. Hein. Parce qu'ils ont été reçus, le groupe était solide, il a pu décrocher à la nuit, hein, disparu, parce que la tactique était la suivante. Alors nous ensuite, après il y a eu quelques embuscades, parce que les routes étaient plus étroites à cette époque, propices à l'embuscade. Alors il y a eu des morts parmi les Allemands aussi, il y a un groupe ou deux qui a attaqué. Nous on assure l'autre parce que nous on protégeait le PC, en tant que groupe on était chargé de protéger le PC, et on a reçu l'ordre de se disperser, bien entendu, parce qu'on n'avait plus les moyens de se battre à armes égales avec les Allemands. Alors se disperser par petits groupes de 4-5, pas plus. Notre groupe, même nous, de 15, a été divisé en 3. Hein, de sorte que si un groupe se faisait prendre, c'était préférable de se faire prendre à 4, de se faire prendre à 30.
Disperser, ça voulait dire aller camper dans la forêt,
dans la forêt,
des endroits.
Dans la forêt.
Mais il n'y avait pas de téléphone portable après pour se retrouver.
Rien, justement, c'est là le gros problème. Il n'y avait rien, mais enfin l'essentiel c'était de sauver sa peau. Nous on est restés d'ailleurs 3 jours, parce que dans notre groupe on avait un peu de tout aussi. On avait 2-3 Russes qui étaient des prisonniers évadés. Mm-hmm. Hein, on avait des Alsaciens. Également, des malgré nous, on en avait un ou deux, qui avaient déserté l'armée allemande, qui étaient passés chez nous. Enfin, nous, je me souviens, je me suis trouvé, moi, avec le commandant de notre groupe, qui était Yann, qui est mort maintenant, et puis un autre qui a fini comme général d'aviation. C'était des gars de l'aviation, nos chefs, nous. Des gars qui sortaient de l'armée de l'air. Mm-hmm. Ransac, d'ailleurs, qui était général, qui est mort aussi, il y a 2-3 ans. Bon, alors, à un moment donné, on se trouve, on n'avait rien. Rien pour boire. Pas une goutte d'eau. Parlons pas de la nourriture. Hein. Et puis la dernière chose, je me souviens que j'ai mangé rongé un os de jambon, et salé par-dessus le marché. Bon, alors, une langue comme ça, 3 jours sans boire, c'est vraiment dur, hein, sans une goutte d'eau. Impossible de trouver une source. Tant c'est si bien qu'on s'amène quand même à un moment donné. On dit, il n'y a pas de doute, il faut sortir des bois, hein, sinon on va claquer. Là. D'inanition complète, bon, il faut sortir. Et on n'était pas très loin de l'Avancia. L'Avancia est un village à côté de Dortan. Hein. On n'était pas très loin de l'Avance. Il y avait une ligne de chemin de fer. Et nous, on était près, pas très loin de la ligne de chemin de fer, dans la forêt. Et Yann me dit, écoute, il faut qu'on se démouffe, faut qu'on trouve une sortie. Alors bon, j'ai pris les chaussures d'un gars, l'imperméable d'un autre, bien entendu, m'habiller en civil, D'ici, je suis piqué, pas d'armes sur moi, absolument rien, c'était pas utile. Hein. Alors je descends, je vais m'essayer la ligne de chemin de fer, je saute sur la ligne, un cheleu qui était à 20 mètres, ils encerclaient tout.
Et c'était toujours là.
Mais bien sûr, c'était toujours là. Le type a pris une trouille, s'est mis à tirer dans tous les sens, parce qu'ils avaient, vraiment peur des terroristes, hein, on leur avait dit, hein. Les terroristes vont vous terroriser s'ils vous prennent, etc. Et tout. Le type tirait, moi j'ai juste le temps de ressauter dessus, les balles passaient au-dessus de ma tête, etc. Mais le type, n'importe comment, hein, complètement ridicule, il pouvait m'avoir la première balle, il me descendait. Hein. Et je rejoins mes copains. Mais les copains ont pensé que j'étais abattu. Vous savez, giclé, je me suis trouvé tout seul. Et toujours rien à voir. Alors j'ai réfléchi 5 minutes. Je savais qu'à Yonax, j'avais une antenne à Yonax, une personne dans mes missions quand je revenais de Lyon, où j'avais couché. Personne qui est morte maintenant, c'est une femme. J'avais couché chez elle, c'est un passage. J'ai dit, je vais la rejoindre. Et là, je vais me planquer chez elle. D'abord, j'arrive sur le chemin. Un filet d'eau, d'abord. Voilà, je suis resté un moment, hein, dans le filet d'eau. Voyez-moi, hein, si j'avais pu avaler pour 15 jours de flotte. Et puis des pommes sauvages qui étaient tombées, qui avaient passé l'hiver sous la neige. Il y avait de l'acidité un peu, c'était bon. Et je rejoins Yonax, 15 km
sans croiser l'allemand, quoi.
Par un petit chemin. Un petit chemin qui longeait la forêt et qui rentrait dans Yonax. Je rentre dans Yonax 7h du soir. Couvre-feu. Parce que les Allemands, ils restaient plus à l'extérieur la nuit. Ils rentraient au cantonnement. Parce que ils avaient la trouille, hein. Et ils partaient le matin en opération. Et là, j'étais un peu dans le cirage. Hein. Tout d'un coup, les rues vides, les volets fermés, tout ben, couvre-feu.
Que voulez-vous, la porte était gardée. Que voulez-vous, nous étions enfermés. Que voulez-vous, la rue était barrée. Que voulez-vous, la ville était matée. Que voulez-vous, elle était affamée. Que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Que voulez-vous.
Et je me dirigeais vers mon lieu de où je m'étais destiné. Et puis pouf, je tombe sur un Allemand qui gardait la route, les jambes écartées, la casquette de chasseur, tout. Je me rappelle, il y a des lunettes comme vous. Oui, je le vois comme maintenant. Hein. J'étais sur le trottoir, mais j'avais un ciré noir, vous savez, tout ça. Puis j'ai regardé gentiment. Lui aussi, il m'a pris certainement pour un gestapien ou un truc comme ça, surtout comme j'étais habité. Et puis je suis parti, mais un peu plus haut, c'était vers les écoles. Il y a un lieu qu'on appelle un axe des écoles. Là, j'ai pris la trouille. Parce que je regarde l'endroit où j'allais. Dans la rue où j'allais, il y avait encore deux Allemands qui étaient de garde dans la rue. Et je rejoins Emondo, à une douzaine de kilomètres.
Vous êtes ressorti.
Je suis ressorti de Yonax, je rejoins Emondo, l'endroit où on avait été attaqué par les GMR. Et là, je rejoins Emondo, j'arrive vers 3-4 heures du matin, complètement crevé, bien sûr. Et je vais chez mon informateur, mon paysan, là, que je connaissais. Je vois un tombeau, je me couche dessous, hein, parce que j'étais crevé, mais enfin, le froid m'a réveillé au bout d'une heure. Au bout d'une heure, j'ai vu son étable éclairée. Il était en train de panser ses animaux et sa traite. Alors j'ouvre l'écurie, je vois sa femme qui part en criant, partez, partez, partez. Il brûle ma maison aujourd'hui, etc. Parce que les Allemands, je l'expliquerai. Après, il me dit, mais t'inquiète pas, il dit, tiens, prenez une boule de pain. Je Je vais te mettre sur un chemin, il y a une baraque, un peu plus loin, il y a un type qui est là-bas aussi. Il y a un gars qui n'a pas pu suivre son groupe qui est là-bas. Tu le rejoins. Et j'ai rejoint le gars en question, d'ailleurs, qui a été tué après. C'était un sergent de la coloniale, hein, qui avait eu des tas de maladies vénériennes, il ne pouvait plus marcher. Il a été tué d'ailleurs, ensuite il s'est engagé dans son régiment, il a été tué à l'attaque d'un blocus allemand. Enfin bref, on était là tous les deux, et ravitaillés par un paysan, parce qu'on avait, des gens étaient, ces gens du Jura, ces paysans, ces montagnards étaient d'un courage extraordinaire. C'était, là il y avait un type, là, vous savez, il avait fait la guerre 14-18, moustachu, chapeau rond noir sur la tête, il faisait son pain. Et tous les jours, il nous ravitaillait. Il nous montait des soupes où on plantait la cuillère droite dedans, avec des pommes de terre, et tout. Et tous les jours, il allait à Dortan, avec son chargement de bœufs, 3-4 sacs de farine derrière, pour voir exactement ce qui se passait. Faire voir aux Allemands qui ravitaillaient, etc. Jusqu'au moment où il nous a dit, ça y est, les Allemands sont partis. Mais ils sont partis en laissant des traces. Quelque chose d'épouvantable. Hein? Quelque chose d'épouvantable au point de vue horreur. Vous aviez...
C'est un village martyr, Dortan.
Ah oui, bien sûr. Il y a donc complètement Dortan, il n'y a pas une maison. C'est pas une maison qui a plus de 60 ans. Tout a été brûlé, sauf le château, parce que c'était le PC du commandement. Vous avez Dortan, l'Avancia, rien. Tout ce qu'on a, tous les villages autour ont été complètement nettoyés. Oui, il y a eu des maquis complètement nettoyés par les Allemands. Mais ça a été une deuxième attaque. C'était pas la première.
Là-haut sur la montagne, il est un vieux chalet, caché dans les rochers, bien protégé par la forêt. Là-haut sur la montagne, il est un vieux chalet. Sur la montagne, des gars sont au chalet, poursuivis par Pétain, par ses boches et ses miliciens. Là-haut sur la montagne, des gars sont au chalet. Là-haut sur la montagne, les gars du vieux chalet sont tombés vaillamment sous les balles des Allemands. Là-haut sur la montagne, les gars du vieux chalet. Là-haut sur la montagne, brûla le vieux chalet. La milice à Pétain y a mis le feu au matin. Là-haut sur la montagne, brûla le vieux chalet. Le maquis vaillamment, il lutte contre l'Allemand. Là-haut sur la montagne, la liberté renaît.
Mais la première, vous avez un village, siège, qui est à 7 km de Yonax, là où les Allemands ont torturé d'une façon. 6 gars d'une façon. On se demande même si c'est des Allemands. C'était pas l'équipe à tordu, les voyous de Lyon qui étaient embrigadés là-dedans, torturés. Les gars complètement nus, ont essayé de les faire brûler. Les yeux crevés, langue coupée, testicules arrachés. Enfin, des trucs inimaginables. Nous, on avait deux copains dedans qui ont été pris. Nous. Il y en a un qu'on a identifié parce qu'il était cheveux roux, frisés. Son nom de guerre était Larousse. Alors il y a un petit peu de cheveux qui n'avaient pas brûlé, on l'a identifié, mais l'autre, on n'a jamais pu l'identifier. On n'a pu savoir.
Il a brûlé comment ? Lance-flamme ?
Ah ben, lance-flamme ou arrosé de pétrole, j'en sais rien. Enfin, quelque chose comme ça, mais quelque chose d'épouvantable. D'épouvantable. Il y avait un sous-lieutenant, d'ailleurs, de Saint-Cyr, qui a toujours une promotion, la promotion partenaire à Saint-Cyr, qui porte son nom, d'ailleurs, qui était dans le maquis et qui a été dans le groupe des six, pour situer. Puis alors, les gars, les chefs de les maires de village exécutés alors à la chaîne.
Exécutés.
Il suffisait que le maquis soit 4-5 km du village, même s'il n'avait aucun rapport avec le maquis, hein, nettoyé. C'est quelque chose. Et puis il a bien entendu tout le village incendié. Hein. Je ne parlais pas, moi j'ai vu brûler des villages comme ça. C'était sur la montagne de côté, comme des feux de paille. Même chose, quelque chose d'épouvantable. Et puis alors, les bêtes, ils avaient embarqué, bien entendu, le maximum. Ce qu'ils n'ont pas pu embarquer, ils y tuaient. De façon à laisser la terre brûler. La terre brûler. Même et les déportations. Barbie, d'ailleurs, a participé à cette opération. Parce qu'on a exécuté, nous, un de ces hommes, un peu avant, qui espionnait encore là à Saint-Cloud.
Un Allemand ou un Français ?
C'est un Français.
Un Français.
Un Français. Et, bien entendu, la sœur de cet Allemand, de ce Français, cherchait son tombeau quelque part, et risquait pas de le trouver. Alors elle était venue avec Barbie, justement, pour essayer de le trouver. Nous, on avait trouvé une grotte, on l'a exécuté, on l'a balancé dans la grotte, perdu dans la montagne, introuvable, vous savez, c'est grottes qu'on en trouve. Alors, voilà cette première opération-là. Alors là, maintenant, les dirigeants, les maquis, ont dit, écoutez, ceux qui peuvent partir 8 jours en permission sont de la région qui partent, parce qu'il faut qu'on s'organise, on n'a plus rien à bouffer, on n'a plus rien, c'est le désordre, c'est le nomensan complet. Alors, on est parti. Moi, j'ai emmené des copains à Tarare. Je savais qu'à Tarare, j'aurais la nourriture à gogo, les marchands de vin, des copains,
oui,
tout.
Très haut. Pour
pouvoir faire la fête un peu. Mais en arrivant à Lyon, c'était 2 Parisiens. Gartum, Martum, Paris, départ. Oh, Dieu, on monte à Paris. Oh, Dieu, on monte à Paris.
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine. Et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci d'être ici. N'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vers la mer. Je suis un enfant, rien qu'un enfant tu sais. Je suis un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
Monte à Paris et j'avais un copain qui était juif. Puis juif, véritablement, on le reconnaissait à 100 mètres à la ronde. Hein.
Dans les deux qui étaient avec vous.
Dans les deux qui étaient avec moi. Alors bon, on monte à Paris, on était je ne sais pas combien dans les WC, une dizaine, enfin, il fallait une nuit complète monter à Paris. On arrive à Paris, on se sépare à Paris. Lui, j'ai un copain, Patrick, qui est mort maintenant. Il va chez sa mère, qui était du côté des Invalides. Et moi, je vais chez le copain qui était juif. Il s'appelait Magenta, boulevard Magenta. Son nom de guerre était Magenta. Et ses parents étaient juifs, bien entendu. Avec l'étoile, ils n'avaient rien à bouffer. C'était anciens épiciers. Ils avaient gardé une boîte de petits pois qui nous ont servi. Rien à manger parce qu'on ne les autorisait pas à sortir avant 10h le matin. Alors à 10h, il n'y avait plus rien. Ouais, c'était quelque chose d'épouvantable. Alors nous, ensuite, bon, dans la journée...
C'est encore beau qu'il n'ait pas été déporté à ce moment-là.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais c'est toute une question de peau, de chance. Hein. Moi, avec mon copain, justement, on allait courir les mikvahs. À un moment donné, j'ai dit, écoute, toi, avec ta tête, tu vas, t'as pas d'étoile, on va tomber sur un truc, il faut qu'on rentre à Tarare. On téléphone à notre copain, on dit, allez, on rentre à Tarare. On est venu à Tarare, on est resté 4-5 jours, hein. Et 4-5 jours à Tarare, bientôt, je me souviens que j'avais ma mère, j'étais avec ma mère, forcément. Et j'avais des copains qui travaillaient dans une usine d'intendance. Une usine qui faisait des bottes, qui autrefois travaillait pour l'armée française, mais en chaussures. De chaussures. Et là, ils faisaient des bottes pour les Allemands. Et j'avais beaucoup de camarades de mon âge qui travaillaient dans cette usine. Ça leur évitait, bien entendu, de participer au fameux STO. Alors ma mère me dit, mais écoute, tu vas rester avec moi. Tu vas rester avec moi, tu vas rentrer à l'usine, ils demandent des gens, etc. Puis tu partiras quand le débarquement aura lieu. Je dis, moi, après, c'est partir, laisser mes camarades. Bonjour. C'est pas possible. On est parti là-bas. Moi, je suis parti, bien entendu, avec des larmes et des pleurs. Ma mère, quoi. Hein. Je dis, moi, je peux pas, c'est pas dans ma nature, tu me connais. Je suis pas un déserteur, et puis en plus de ça, je me suis engagé dans une mission qui reste. J'y suis, j'y reste.
Et là, on était à quelle date, là ?
C'était au mois d'avril 44.
Avril
44. Il y avait eu à Tarare, d'ailleurs, un avion qui était tombé du côté de Saint-Cyr-de-Valorge. Mmh. Un avion anglais qui s'était écrasé du côté de Saint-Cyr-de-Valorge.
Oui, oui. Et les maquisards de la Zergue l'ont récupéré, les aviateurs.
Voilà, ça connaissait ça. Bon, alors bon, ensuite, on est parti, on est rentré. Bon, on a mené quelques opérations. Là, on s'est organisé. Moi, j'étais blessé un peu à l'attaque d'un peu seulement. Hein, on a reçu la mission de nettoyer un peu tout le secteur et jusqu'au 6 juin. 6 juin arrive, bon, plus beau jour de ma vie, bien sûr. J'ai 88 ans, c'est le beau jour de ma vie, c'est sûr. Parce qu'on attendait ça tellement, avec tellement d'impatience. Puis on voyait, on dit, on reçoit les coups de boutoir, on a les cheveux sur le dos, on a tout, et puis ce débarquement qui vient pas, aucun espoir.
Vous l'avez su comment, 6 juin ?
La radio.
La radio.
Mmh. Matin, la radio. Il faisait un temps de chien, d'ailleurs. D'ailleurs, le débarquement a été retardé parce qu'il faisait très mauvais cette période. Il pleuvait, mais dans des conditions terribles. Enfin, bref. Alors là, on reçoit l'instruction de, bien entendu, de descendre dans la plaine et puis de nettoyer absolument, de monter des barrages, attaquer tout ce qui pouvait faciliter les Allemands. On reçoit ces instructions-là qu'il fallait absolument monter des barrages, attaquer les troupes.
Vous aviez les moyens de
ben, on commençait
de
à avoir
vous opposer.
On avait des petits mortiers, des mitrailleuses, quelques-unes, des fusils mitrailleurs. Si, on pouvait. Et dresser des barrages. Monter des barrages, etc.
Une attaque ponctuelle et surpillée, parce que vous ne pouviez pas tirer
la
guerre, longtemps.
C'est la guérilla, c'était la guérilla. C'était le problème de Radour. Radour comment ? Radour a été attaqué, le village avant a été attaqué par les maquis. Ils sont rentrés dans Radour, ils ont tout nettoyé. Hein ? C'était pas d'engager la bagarre complète, c'était de les attaquer, leur faire des pertes, d'une manière ou d'une autre, hein, sur des embuscades, enfin des trucs. Et puis nettoyer aussi les postes allemands qui existaient. C'est là où j'étais blessé, moi, parce qu'il y avait un poste radar qui nous observait les parachutages de A jusqu'à Z. Et ils étaient très bien équipés au point de vue de perfectionnement, hein, pas de doute. Et voilà, c'était le
Et les attaques de train, les voies ferrées, vous vous y êtes attaqué aussi?
Oui, mais peu. Il y avait des groupes un
peu. C'était stratégique aussi pour les freiner.
Ah ben absolument, bien entendu. Mais il y avait des groupes qui s'occupaient de ça. Aussi, nous, à Saint-Claude, la plaque tournante de Saint-Claude, c'est nous qui l'ont fait sauter. Parce que vous savez, quand la comédie avait terminé, il faut tourner.
Il retombe.
Bon, il ne pouvait pas sauter, il n'y a pas de doute. On attaquait aussi. Si, j'ai participé à deux déraillements aussi en plus. Bon, et enfin, tout, c'était toujours en action, ou comme ça, ou autrement. Pas de doute.
Mais pour vous dire, les Allemands. Par déboulonnage ou à l'explosif?
À l'explosif. Explosif. Nagamon. Il y en a que c'était un déboulonnage, enfin, selon les moyens dont ils disposaient.
C'était le temps du long refus, le temps des ombres agissantes. Cheminots, tu ne pliais plus au coup de l'armée occupante. Il fallait te montrer habile, connaître ruse et puis courage. Du sable dans la boîte à huile, et le train restait au triage. Cheminots, dans ton obscur combat, avec tes armes d'ouvrier, avec le mépris du danger. Cheminots, ce fut la grande bataille du rail que tu gagnas. Quelque part un pont s'affaissait, ici on enlevait les tire-fonds, et le convoi au loin sifflait comme s'il accordait son pardon. Lorsque dans un bruit infernal, la loco se couchait meurtrie, autour de son ventre en métal, la vapeur retombait en pluie. Cheminons dans ton obscur combat, avec tes armes d'ouvrier, avec le mépris du danger. Cheminons, ce fut la grande bataille du rail que tu gagnas. Mais qu'il est triste d'abîmer le grand jouet qu'on aime tant, quand le prix de la liberté ne se paie qu'en larmes de sang. Jeu du défi, risque voulu, manque de chance ou représailles, bien des cheminots abattus dans le silence et la grisaille. Cheminots, dans ton obscur combat, avec tes armes d'ouvrier, avec le mépris du danger. Cheminots, ce fut la grande bataille du rail que tu gagnas. Un jour arriva la victoire, il fallut bien panser les plaies, et le présent devint espoir. Les cheminots dirent nous sommes prêts. Chacun se remit au travail, tout reconstruire fut à la une, et l'on vit bientôt sur les rails passer les 141 cheminots. Dans ce nouveau combat, avec ton cœur et ton métier, avec le progrès affirmé, cheminons, c'est une autre bataille du rail qui commença.
Donc 6 juin, mais les Alliés étaient encore loin.
Ah ben bien sûr, très loin. Très loin.
D'arriver là.
C'est là le problème. Deuxième attaque des Allemands, au mois de juillet, le 14 juillet 1944. La même division nous attaque, mais nous on est attaqués un peu dans le nord, du côté de l'Avancia, du côté de l'Ansonnier. Donc j'étais dans ces postes-là, l'Avancia d'Ortan. J'étais d'Ortan d'ailleurs. On est attaqués là par l'armée Blassov. Parce qu'ils servaient l'armée Blassov, ils ne l'envoyaient pas en Russie, sur le front russe.
Bien sûr.
Ils s'en servaient pour des répressions. Et là, c'était assez sérieux, il a fallu aussi décrocher. Parce qu'on n'avait plus les moyens. Hein. Et au 88, ils nous tiraient à vue. À vue, ils nous tiraient à Canoël. Alors bon, la nuit, il a fallu. On attendait la nuit pour décrocher, il a fallu décrocher la nuit.
Des pertes aussi?
Des pertes, oui. On a eu quand même quelques pertes. Bon, pas énormément, hein. Les maquis n'avaient pas. Les pertes n'étaient pas énormes. Hein. Les pertes, c'était surtout les représailles, les gars qui étaient fusillés, etc. Ah, mais dans le combat, il y en a eu, bien entendu, il y en a toujours. Hein. Mais proportionnellement aux Allemands, ils avaient beaucoup plus de pertes que nous. Plus de pertes que nous. Il y a eu des attaques, bien entendu, ils étaient informés aussi, ils avaient des espions. Hein. Il ne fallait pas. Ça, ils étaient vraiment informés aussi. Hein. C'est la tactique des Allemands. Ils rentraient dans des prisons françaises. Vous voyez le directeur, il dit envoyez-moi le pilier, voilà. Regardez tous les gars, là. Et celui-là, bah, tiens, celui-là, il a 10 ans. Vous me l'appelez. On appelait le gars. Il dit voilà, tu veux travailler pour nous, t'es libéré. Alors, on dégageait le gars, il dit tu vas partir dans la nature, et puis tu vas dire tu cherches à aller au maquis, etc. Et puis quand tu seras à un endroit, tu dégages, tu me donnes les informations et les lieux. C'est arrivé à plusieurs reprises, pas chez nous.
Difficile de les démasquer, ces gens.
Eh bien, difficile. Si on démasquait, c'est que le matin, le type a fait la malle dans la nuit. Ben, bon, on avait compris, hein, ouais. Les gars, il fallait dégager. Hein. Nous, ça ne s'est pas produit chez nous. C'est pas produit, mais ça s'est produit par ailleurs. Ou alors, si on réussissait à le reprendre, bon, ben, c'est sa fête, quoi. Hein.
C'est fini ?
Pas de problème.
T'as mangé les deux ?
C'était ça, l'action. C'était l'action, et là, il a fallu, bien entendu. Mais il y a d'autres tactiques des Allemands aussi. Par exemple, à Saint-Claude, c'est en 40, mois d'avril. À Saint-Claude, le haut-parleur passe dans Saint-Claude. Tous les hommes valides de 18 à 50 ans. Place du Pré. Je ne sais pas si vous connaissez la place Saint-Claude, la place du Pré, et la grande place du pays. Rassemblement tous les hommes. C'était 11h midi par là. Alors, les gars, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils ont à y aller quand même. Même ceux qui n'étaient pas impliqués, surtout qu'il n'y avait rien. Celui qui n'avait rien à se reprocher, il dit on va y aller, puis on va revenir. Hein. La place encerclée, les wagons à bestiaux, tout le monde dedans. 300 comme ça.
Ils ont déporté.
Je me souviens d'une main qui m'avait attrapé. Je me souviens d'une main serrée comme un grappin. Je me souviens. C'était un train de nuit dans un pays troublé, tout le corps entaché, mon âme sans abri. Je me souviens d'un regard qui m'avait allumé. Je me souviens d'un regard qui brillait dans le noir. Je me souviens. Et ce regard perdu qui n'avait plus que moi. Qui je suis? Qui es-tu? Toi, que je ne vois pas. Je me souviens d'une voix enrouée. Je me souviens d'une voix qui me parlait tout bas. Je me souviens. C'était un train de nuit aux portes verrouillées. Un instant réunis, aussitôt séparés. Je me souviens d'un moment que je n'attendais pas. Je me souviens d'un moment où la nuit s'arrêta. Je me souviens. Et je ne savais plus quand le jour s'est levé qui était l'inconnu qui m'avait possédé. Puisque tout est fini. même n'importe qui au milieu de mes nuits. C'était un train dans la nuit, dans un pays troublé. Je me souviens de la nuit, je me souviens de l'oubli. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens.
On était à Saint-Claude, oui, au moment où ils réunissent toute la population masculine pour la déporter. Je vous demandais, le motif, c'était vos attaques précédentes.
Bien entendu, c'était des motifs de représailles.
Il n'y avait pas de rapport
direct. Ils n'avaient même pas de motif, hein. Ils s'en foutaient. Hein.
Et ces déportés, donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les 400 ?
J'en ai rencontré un ou deux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui m'ont expliqué. J'en ai rencontré un ou deux.
Il y en est revenu beaucoup ou... Vous ne savez pas ?
Je ne sais pas exactement, hein, mais enfin, vous savez, dans ce qui revenait, moi j'estime il y a au moins 30 ou 40% de gens qui ne revenaient pas, dans l'ensemble. Si on regarde.
Quelquefois,
c'était
plus...
Remarquez, il y en a qui sont revenus, bien, parce que je retrouve encore... Parce que je suis au CHRD, là, et on est témoins, bien entendu. Alors, dans les témoins, je trouve encore beaucoup de déportés, des gars qui ont 90 ans, hein, 91 ans. Il y en a 93 ans, même.
Qui sont toujours... qui se rappellent très bien.
Qui se rappellent, oui, tout à fait. Oui.
C'est bien.
Tout à fait, qui sont très conscients, qui se rappellent bien des événements, hein. Ça, c'était courant. Et alors, bien entendu, après cette attaque de juillet 44, encore un désastre. Brûler ce qui n'avait pas été brûlé. Hein. Tout nettoyé, bien entendu. On s'est réfugié au-dessus de Saint-Claude, ce qu'on appelle la borne au Lion. Avec nos blessés, bien entendu. Parce qu'on avait oublié d'évacuer l'hôpital de Yonax. Alors, dans des conditions... Parce que les Allemands, s'ils trouvaient des blessés, ils les exécutaient, hein, automatiquement. Alors il faut voir dans quelles conditions les gars ont été soignés en forêt. Heureusement, c'était en été. Hein. Ça allait quand même mieux. Mais enfin, il y a des endroits où c'était extrêmement difficile, quoi. Puis on n'avait pas tous les médicaments nécessaires, oui, non plus. Et on s'est réfugiés dans cette région-là, hein. On dominait la borne au Lion, on dominait le lac de Genève, vous voyez, entièrement, Pajex, qui était occupé par les Allemands. Et puis nous, de l'autre côté. Alors on avait la Suisse, où c'était le...
Paradis.
Le paradis, les petits bateaux blancs, c'est la Suisse. Je les vois encore. Hein. Jour de fête, et nous, on canardait, on s'accrochait avec les troupes allemandes qui étaient à Ajax. Mais en patrouille. C'était par des patrouilles, simplement. Et c'est à ce moment-là qu'est venu le colonel Lagarde, le fameux colonel en question, qui nous a demandé ceux qui voulaient le rejoindre. C'était peut-être pas tout à fait dans les cordes du commandement. Vous savez, il y avait quand même des rivalités, hein. Non, c'était des hommes. Hein. Il y avait des rivalités. Enfin, nous, on a accepté avec moi, avec deux camarades, de partir. Et on a rejoint Champagnol.
Ça vous faisait pas, comment dire, ça vous faisait pas, j'allais dire de la peine, mais c'est pas le mot. C'était pas un peu difficile, effectivement, de quitter ce groupe où vous aviez passé tous les mois précédents.
Oui, bien entendu, mais pour nous, c'était l'attrait d'abord du nouveau, hein. L'attrait du nouveau et de créer, de création. Ce qui est important, la création, on se rendait plus utile en étant cadre de former des jeunes et d'aller dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux combats. C'est ce qui nous passionnait. C'est la raison pour laquelle on a quitté, parce qu'on était là, bon, on guerroyait. On guerroyait. Alors que là-bas, on allait créer quelque chose en plein dans la... dans le paquet d'Allemands qu'il y avait encore dans le dos, à cette époque-là. Hein.
Donc vous arrivez vers Champagnole. Champagnole. Vous installez où? Pas dans la ville, quand même.
Eh bien, Champagnole, on rentre dans ça. Si on était trois, là, on tombe dans les environs de Champagnole. Hein. On tombe sur un maquis qui faisait partie du groupe du colonel Lagarde.
Hein. Vous souvenez où il était, non? Quelle direction? Non, peut-être pas.
C'était un peu avant Champagnole.
En venant du Jura.
C'était avant son père.
Siam, par là.
Quelque chose comme ça, oui, un peu avant. C'était dirigé par un capitaine, d'ailleurs, un ancien instituteur, un brave type. Et de là, on rentre et dit, bon, on va libérer Champagnole. Champagnole, il n'y avait pas grand-chose à libérer. Il y avait un peu de fait de gendarmerie. C'est tout. Et je me souviens, bon, on rentre dans Champagnole, plus d'Allemands. On est invité, je me souviens. Il y a un truc, je crois, qui s'appelle l'Hôtel de France à Champagnole. Le type nous invite, bien entendu. Un gueuleton extraordinaire. Les Allemands, il avait fréquenté les Allemands un peu avant, bien entendu.
Il voulait se faire
pardonner. On a fait un gueuleton royal. Et on a bu comme des...
Et là, vous étiez avec vos armes?
Oui. Tout d'un coup, alerte générale, les Allemands reviennent. Et on était tous à moitié ronds. D'ailleurs, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Hein. Et puis, en finale, c'était fausse alerte, quoi. Bien entendu, on est sortis, c'est prendre des positions, comme on pouvait, mais c'était fausse alerte. Et Champagnole était libéré comme ça.
Fin juillet, oui.
Hein? Oula. Fin juillet, début août. Des Champagnole. Et puis de là, bien entendu, on a rejoint le PC du commandement, le PC, je ne me rappelle plus où il était exactement. On a rejoint le PC et c'est là, bien entendu, on s'est accroché avec des Allemands qui remontaient, qui fuyaient carrément. On a trouvé beaucoup d'Allemands qui fuyaient avec des voitures pleines de...
Mais organisées ou
non,
en débandade?
En débandade, ah, mais oui. Les voitures pleines de tout ce qu'on veut, de soieries, de trucs comme ça. Des officiers surtout, hein, officiers allemands qui prenaient la peau des scampettes avec des bagnoles chargées maximum de...
Et vous avez pu en intercepter?
Ah oui, on a exécuté même. Oui. Plusieurs groupes comme ça. Oui, c'était... Je me rappelle, il y avait des bords de soie, il y en avait... Il aurait pu en faire le marchand quand il arrivait chez lui. Je me souviens, c'était un capitaine.
Qu'est-ce que vous faisiez des marchandises? Vous remettiez ça à la mairie?
Oh, bah oui, on mettait ça à la communauté, hein, à la mairie, hein, au responsable du coin, quoi. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Rien du tout. Si je crois que mon copain lui a piqué une montre, hein, si c'est une belle montre. Il avait piqué une belle montre. Une belle montre en or, hein. Moi, comme j'avais été blessé aussi, j'avais hérité des prisonniers de montres aussi qu'ils avaient. Dans l'attaque du poste de proie où j'étais blessé, j'ai reçu une grenade sur la tête. Grenade à manche. De là à votre distance, couché comme ça, en tirant. Mais par bonheur, c'était une grenade offensive. Alors, bien entendu, elle fait le même boulot qu'une grenade offensive, mais les impacts ne sont pas les mêmes. C'était des attaques de fer blanc, j'en avais une quarantaine dans la tête.
Ah oui.
Quarantaine. Alors, je pissais le sang, puis il manque de peau, il pleuvait le matin. Alors, les copains, quand ils m'ont vu comme ça, j'étais assommé, ils ont dit, ça y est, il a la tête coupée en morceaux. Hein. Mais c'était simplement des éclats qui, petit à petit, on a enlevé, ou qui sont partis tout seuls, enfin bref. Mais c'était le pot, quoi, hein. 30 cm de la tête. Le type m'avait repéré, véritablement, de son coin, parce que, à la flamme de ma mitraillette, il m'avait opéré parce que c'était juste au petit jour, on attaquait, quoi. On avait progressé dans la nuit, et puis on était à la portée du camp, mais c'était un glacis où ils avaient tout nettoyé, bien entendu. de façon à avoir suffisamment d'espace où ils étaient attaqués, c'était le cas. Et là, j'ai stoppé et de charger au bazooka, mon copain. C'est le premier bazooka qu'on avait. Alors attendez, on n'a jamais essayé cette arme-là, parce qu'on serait un bazooka avec 4-5 torpilles. On dit si on en posait une ou deux. Hein. Alors autant sur l'effectif, mais alors c'était pas quand même marrant de tirer dans ces conditions-là. Hein. C'était pas marrant.
Il a réussi quand même.
Il a réussi, oui. Il était blessé, lui. Il a eu le fémur brisé.
Ah ouais.
Il a eu le fémur brisé. Bon, je l'ai entendu crier, je suis allé vers lui, mais d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs copains, tout ça. Ouais.
Et vous avez été indisponible combien de temps avec vos blessures?
Un peu. Peu de temps, 3-4 jours. Ah. 3-4 jours, je suis à l'hôpital, bon. Hop, 3-4 jours. Hein. Alors, j'avais l'avantage, au camp, de coucher chez des civils, comme j'étais blessé. C'est-à-dire de coucher dans les granges, des machins comme ça. Couché dans un plumard, quoi. Mmh. Ce qui était rare, hein. Ça, j'explique souvent, des fois, aux jeunes. C'était ça, dans l'hiver. Je me souviens, un jour, je rentrais de mission de Saint-Claude, et je montais dans mon camp, qu'on appelait ça le Poisa. C'était un camp qui était perdu dans la montagne. Et je rentrais le soir, c'était 8-9 heures, et je m'amène dans le village, en bas du camp. J'avais encore une heure ou deux de marche à pied. Alors je m'arrête chez cet ami, d'ailleurs, qui a été déporté après. Je m'arrête chez cet ami, il me dit, tiens, tu vas prendre un bouillon avec nous, un souper avec nous. Et puis il dit, tu vas pas monter là-haut ce soir. Mais je dis, si, c'est 11 heures du soir. Il dit, écoute, les gars dorment, ils vont pas s'apercevoir que t'es rentré, tu partiras demain matin de bonne heure, mais repose-toi ici. Dans un lit. Il me donne un lit. Le matin, il vient pour me réveiller. Je n'étais plus dans le lit. J'étais par terre, couché sur la descente de lit. Oui. Impossible de dormir dans un lit. Parce que j'avais l'habitude de dormir depuis des mois et des mois sur du dur. Il me trouve sur la descente de lit. Et ce brave papillon, il s'appelait, sa maison brûlée. Sa femme déportée, lui déportée, deux filles déportées. Une seule fille est revenue. Parce que, bien entendu, ils avaient été dénoncés par des mouchards.
Il était d'où ?
Côté de Raviol, côté de Saint-Lupicin, côté de Saint-Cloud.
Il avait été dénoncé comme maquisard ?
Ah ben non, dénoncé comme partisan de... machin, oui. Il y avait une saloperie qui était dans le village et...
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai remis mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans souffrance. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Ainsi se termine cette deuxième émission d'une nouvelle série de trois consacrée au résistant Roger Gaget. Cette deuxième émission avait pour sujet sa vie de maquisard entre mars et août 1944 dans le Jura. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Le poème « Couvre-feu » de Paul Éluard, mis en musique par Jean-François Gaël et interprété par Francesca Solville. Et puis c'était Rosalie Dubois qui interprétait ce chant des Maquis de Savoie de 1944, Le Vieux Chalet. Ensuite, Charles Trenet interprétait sa composition Paroles et Musique Revoir Paris. Puis c'est Pierre-Marie qui interprétait Les Combattants du Rail sur des paroles de Lionel Guillaume, une musique de Pierre-Marie Lamouret. Ensuite, c'est Juliette Gréco qui, sur le texte de Jean-Claude Carrière et la musique de Gérard Joannès, interprétait « C'est un train de nuit ». Et enfin, Marcel Mouloudji interprétait Bernard sur une musique de Anna Marly, « La complainte du partisan ». Dans notre troisième et dernière émission de cette série, nous évoquerons certains épisodes de la libération en Franche-Comté à fin août 44 et ce que fut l'après-guerre pour Roger Gaget, ainsi que le regard qu'il porte aujourd'hui sur toute cette période. Nous remercions Roger Gaget d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien à Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlaque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlaque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque.
son frère et son enfant. Quand un humain s'enflamme, c'est distancle. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distancle. Le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. On se bise, on se bise en claque.